on peut lancer.
Émission du jour.
Coupe ton truc. Voilà. Ok.
Oui, donc, chers auditeurs, la Libre Pensée, comme chaque premier mercredi du mois, est sur l'antenne de Radio Galère, que nous remercions. Aujourd'hui, l'émission est animée par Claudette Coudeville et moi-même, Michel Garin, avec comme invité André Pierre. Alors, normalement, nous devions avoir notre camarade Henri, qui malheureusement est malade, donc on l'excuse et il s'excuse également donc, de ne pas être présent. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous parlerons de deux sujets d'actualité, c'est ce que nous avions prévu donc, initialement. Donc le premier sujet qui devait être traité par notre camarade Henri sur les vêtements républicains existe-t-il, et normalement aurait dû être le sujet développé par lui. Donc, on va passer dans un premier temps directement sur la seconde partie de l'interview, en définitive. Alors, pour cette deuxième partie, donc, nous recevons une association citoyenne locale, la CVHE, alors représentée par André Pierre. Alors, bien entendu, je laisserai notre camarade, notre invité, André Pierre, expliquer ce que c'est que la CVHE. Et le thème, en définitive, c'est que les maires de plusieurs villages de la vallée de Livonne sont allés au Vatican. À leur retour, ils se sont répandus dans la presse écrite et télévisuelle sur la réalité de leur projet. Cela a entraîné la réaction de votre association. André Pierre. Premièrement, pouvez-vous présenter votre association ?
Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, donc ACVHE, donc un nom un peu long. On gardera les initiales comme ça tout le long, je pense. Donc, l'Association des contribuables de la vallée de Livonne et de l'Étoile. Donc, comme tu as dit, c'est à la suite. On a créé cette association à la suite de la présence de sept maires au Vatican, qui nous a beaucoup questionnés, sur lequel on va revenir ensuite. Et il s'agit du coup de défendre les intérêts des contribuables de la vallée de Livonne et de l'Étoile. Donc on entend par là d'agir auprès des collectivités et des élus afin de s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics, afin de voir aussi tout ce qui peut être du coup incohérence financière, utilisation de fonds publics pour des actes communautaires ou idéologiques anormaux, des potentiels conflits d'intérêts, en tout cas voilà, tout ce qui se rapporte un peu à l'argent public, hein, tout simplement. Dans les objectifs qu'on s'est fixés, c'est également d'informer les citoyens. Donc on réfléchit à différents systèmes. Ça pourrait être des réunions, des communications via les réseaux sociaux, potentiellement aussi aller à la rencontre des gens au cours d'éléments extérieurs. Et le but du jeu serait d'encourager les gens à réfléchir et pourquoi pas à nous rejoindre dans nos nombreux combats et s'emparer de sujets potentiellement tendancieux, car malheureusement, qu'importe où on est en France, on a tous des idées de choses un peu bizarres des fois et où on aimerait mettre le nez un peu dedans. Sauf que c'est des choses qui prennent pas mal de temps et c'est bien d'utiliser les associations dans ces cas-là pour cela. Donc, pour l'instant, je tiens juste à vous préciser qu'on est uniquement on peut être suivi sur Facebook et on aura d'autres outils prochainement pour nous suivre. Et voilà.
Bon, alors, quels sont les faits qui vous ont motivé pour agir ?
Alors, comme tu as énoncé au début, c'était l'histoire où on a découvert dans l'article de la Provence qu'une délégation de sept maires était allée au Vatican et avait été reçue par le pape. Leur mission officielle était d'accompagner un évêque de Marseille dans l'acquisition de nouvelles fonctions au sein de l'Église. Bon. Les maires, il s'agit des maires d'Auriol, où personnellement je suis résident et où nombre de mes camarades de l'association sont résidents aussi. Le maire de Cadolive, Cuges, Les Pins, La Destrousse, Pépin, Gréasque et Saint-Savournin. Il est à noter qu'on peut retrouver également toutes les informations de ce déplacement sur les comptes Facebook de Madame Micheli, maire d'Auriol, et Monsieur Perrottino, maire de Cadolive, en plus de l'article de la Provence. Donc l'article de la Provence, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous explique que les sept maires sont partis donc accompagner un évêque au Vatican et que dans ce but, les maires en question devaient, par leur présence, aider à cette évolution de poste, si je peux dire, au sein du Vatican. Ce qui nous a choqué là-dedans, c'est que d'abord, l'article de la Provence évoque que c'est à l'initiative de l'Union des maires. Donc nous, association de défense du contribuable, on s'est posé la question sur qui a financé cela. Donc, qui a financé parce que si c'était l'Union des maires, c'est une association à part, mais on peut se questionner, vu que c'est de l'argent public qui rentre à l'intérieur, il y a les mairies qui financent dedans, il y a les maires eux-mêmes qui financent dedans, donc on se pose pas mal de questions. On n'avait pas d'informations claires dans l'article sur les réseaux, donc on a soumis une lettre à ces sept maires afin de les questionner sur les fonds utilisés et également, ce dont vous doutez un petit peu, parce que ça va être une partie du sujet de notre entrevue, c'est au sujet de la laïcité, car des maires républicains qui se retrouvent au Vatican, soi-disant sous leur étiquette de maire et non personnel, ça pose des questions. Après cette lettre, ils nous ont répondu que nous avions, alors je cite, « aucune légitimité à demander des comptes ». Ce qui est un compte pour des personnes nourries au denier public durant leur mandat quand même. Alors, en bon prince, ils nous ont indiqué que les déplacements et les frais engendrés avaient été pris en charge personnellement par chacun des maires. Il est évidemment très compliqué de demander à chaque maire de nous prouver cela à l'aide de ses comptes personnels, mais nous allons tout de même continuer à chercher. J'aimerais insister sur une partie de la lettre qui nous a paru quand même assez incroyable, qui est disponible aussi sur notre page Facebook où on a communiqué tous nos documents, lorsqu'ils indiquent que les quatre éléments fondamentaux d'un village français sont la mairie, l'école, le monument aux morts et l'église. Il y en a un des quatre qui semble pas au bon endroit là-dedans. Donc ça nous a paru choquant par sa réponse. Et entre la réponse des maires et nos réflexions, on a trouvé sur YouTube une vidéo d'un reportage sur cet événement qui a été réalisé par une chaîne catholique où on peut y voir M. Perrottino, donc le maire de Cadolive et qui a aussi différentes responsabilités politiques dans la région, donner une interview, et je cite exactement ce qui a été dit et trouvable sur YouTube, hein, j'insiste. « C'est très important pour nous d'être à côté de lui, donc lui l'évêque, pour transporter la foi auprès de nos administrés, auprès de notre population, auprès de nos habitants, et c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre l'Église ensemble. Laïcité, Église, nous sommes tous ensemble, et c'est ensemble que nous gagnons. » Alors là... À chaque fois que je communique cette petite interview à n'importe qui, que ce soit des proches ou des moins proches autour de moi, la première question, c'est qu'est-ce que vous allez gagner ? Nous allons gagner. Il veut évangéliser notre nation, il veut profiter de la religion pour gagner des élections. Enfin, on pose la question, car la portée de ces mots sont potentiellement très graves. Et il semblerait que cette personne nécessite au minimum quelques cours d'histoire en la matière, plus particulièrement sur une certaine année 1905. On pourrait revenir aussi sur cette loi. Je parle évidemment de la séparation de l'État et de l'Église. Dans tout cela, il y a évidemment une entorse au devoir de neutralité. Nous sommes un pays laïque, mais on voit que cela dérive et que ce mot est déformé sans cesse et instrumentalisé à de mauvais escients. C'est pourquoi nous sommes entourés de la libre pensée afin de nous épauler sur cette question plus épineuse et potentiellement plus complexe que simplement des comptes avec de l'argent public. À la suite de cette réponse des sept maires, nous avons réalisé une conférence de presse réunissant différents journaux tels que La Provence, La Marseillaise et Méfi, un journal local de Aubagne, autour de Aubagne, afin d'attirer leur attention vis-à-vis des différents points que je viens de vous présenter. Chacun a réalisé un article, disponible également sur notre page Facebook, et nous avons envoyé un second courrier pour nous entretenir avec ces sept maires. Voilà. Voilà où on en est pour l'instant.
Alors maintenant, quels sont en définitive les premiers résultats de votre action et quelle suite entendez-vous donner à ce problème, quoi, je dirais.
Alors on a réussi donc à faire une conférence de presse où on a pu communiquer avec les médias et déjà ça a pu toucher pas mal de monde. On commence à avoir des contacts de gens qui nous disent mais qu'est-ce qui se passe, on pourrait avoir plus d'informations. Donc on commence donc à porter ce sujet à la connaissance du plus grand nombre. Ces trois articles ont été rédigés, reprenant correctement ce que nous indiquions, Et il se trouve que depuis la publication des articles, donc sur la page Facebook, on a aussi, qu'on vient de créer, on commence à engranger un petit peu des contacts dedans. Alors à ce jour, après cette conférence de presse, on a le maire d'Auriol, Madame Micheli, qui nous a proposé là, donc, d'ici la semaine prochaine un rendez-vous pour nous expliquer probablement ce qui lui paraît normal et ce que nous paraît anormal. Donc on espère avoir un dialogue constructif avec elle. Probablement que c'est le maire d'Auriol qui s'occupe de ça, vu que nous sommes habitants d'Auriol. Donc ça paraît potentiellement logique. Et du coup, on n'a pas eu de réponse des 6 autres maires. Et après, pour la suite, donc ça, on va continuer de questionner, de chercher, parce que pour nous, ça nous paraît quand même très important ce qui se passe. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, où en fonction de la religion que vous avez, on vous tape plus ou moins dessus, hein, on va dire les choses très clairement. Et de l'autre côté, on vous caresse dans le sens du poil. Hein. Alors ensuite, pour ce qui est de l'association en général, sans vous donner plus de détails, parce que c'est une jeune association qui a déjà plein de sujets à démarrer, nous avons été contactés par des habitants de la région qui avaient des thèmes un peu croustillants, mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce qu'on n'a pas assez d'infos et on n'a pas vérifié tout ce qu'il fallait. Et il faut savoir que dans tout ça, malheureusement, l'état de notre République, la République française, est tel aujourd'hui que des histoires douteuses sur l'utilisation potentielle de fonds publics ou de conflits d'intérêts existent dans une quantité astronomique, comme je disais au début. Je suis sûr qu'en prononçant ces mots, vous ou même vos auditeurs ou les auditeurs qui nous écoutent avez directement des faits qui vous viennent à l'esprit et qui mériteraient d'être investigués. Et c'est pourquoi il faut être conscient que ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et de notre côté, on va faire donc une chose à la fois. Et on invite, si des gens veulent s'en motiver, à nous rejoindre pour ce combat et pour les prochains qui viendront. Je vous y invite de tout mon cœur.
Voilà. Donc, avant de continuer sur ce sujet, hein, on va vous passer un petit intermède musical qui va de soi. Nous vous invitons à pas de prière le soir avec notre ami Schmoll, que beaucoup connaissent, ainsi que le titre. Voilà.
Le papa dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi, tu sens guère. Observez les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie woogie. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, reprenez avec moi son cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Mes fidèles sont partis. Dieu
Mais bien chasseur encore une fois. Reprenez avec moi, stalker. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir.
Boogie woogie, pas de boogie woogie.
Voilà, maintenant nous allons passer, nous allons continuer notre intervention sur ce cas assez pointu d'atteinte à la laïcité. Alors, c'est une question que je pose maintenant à Claudette. Alors, quelle analyse fait l'ALP de cette affaire au point de vue de la laïcité de façon plus générale ?
Alors, bonjour. Notre position est la suivante. Ce qui s'est passé avec ces sept mères, ce n'est pas pour nous un épiphénomène. Cette histoire n'est pas seulement une histoire qui se passe dans sept villages. Elle a, à notre avis, une valeur nationale, au même titre qu'ont une valeur nationale toutes les tentatives de réinvestir la sphère publique auxquelles on assiste actuellement par les religions, auxquelles nous assistons actuellement et depuis ces dernières années. Parce que par leurs actes, ces sept mères remettent, mais tu l'as dit, véritablement en cause la loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État, qui n'est pas une quelconque loi, qui a d'ailleurs valeur constitutionnelle et fait partie du bloc de constitutionnalité. Par cette loi, la République a renoncé à s'occuper d'affaires religieuses. Pour rappel, son article 2 précise « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Pour les citoyens, c'est devenu l'assurance que l'État étant indifférent à leurs croyances ou à leurs convictions, ils pouvaient sans crainte s'adonner au culte de leur choix ou à leur absence de culte. Quelles que soient leurs convictions, ils étaient ou ils sont, si la loi est appliquée, à égalité devant l'État, devant la mairie, devant toutes les instances publiques et tous les services publics. Ils acquièrent ainsi la pleine liberté de conscience et le libre exercice des cultes. L'État, quant à lui, peut se concentrer sur ses fonctions sociales. De plus, l'État étant neutre, les lois ne passent plus au crible des dogmes et peuvent alors être réellement l'expression de la volonté générale. Cette loi a mis un terme au conflit religieux qui, dans notre pays, était devenu un sport national. Sa remise en cause ne peut, à notre avis, que créer des ferments de conflits religieux et remettre en cause la paix civile. Alors, parce qu'il y a justement la loi de 1905, ces maires auraient très bien pu se rendre au Vatican à titre privé, comme simple citoyen jouissant de la liberté de conscience. Mais ils ont fait un choix. Ils ont choisi d'y aller en tant que maire pour préparer avec la puissance religieuse catholique l'implantation de services catholiques sur le territoire de leur commune. Ça n'est pas rien. Ils ont rompu ainsi avec l'exigence de neutralité à laquelle les oblige leur fonction de maire et créé de fait une séparation entre ceux des citoyens qui sont de la bonne religion, celle qu'il faut, de leur point de vue, réimplanter dans la ville et dans l'esprit des enfants par le biais des patronages et d'aide aux devoirs, et les autres citoyens, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, athées, hindouistes, shintoïstes, enfin bon, bref, la liste est très très longue. Et ceci au risque de créer donc des tensions et des rancœurs, comme je l'ai dit plus haut. En mélangeant politique et religion, les décisions de la commune, rappelons-le, sont d'ordre politique. Donc, en mélangeant politique et religion, ils ont rétabli ce que les républicains de 1905 ont voulu écarter, le cléricalisme, c'est-à-dire la prétention de certaines religions à imposer les lois de Dieu, les lois de la religion au-dessus des lois de la République. Pour ce qui concerne le maire, M. Perrottino, en déclarant vouloir apporter la foi à ses administrés, il s'est fait en quelque sorte le missionnaire de l'Église catholique. Et on le comprend bien, il n'est plus ici dans son rôle de maire. Hélas, cette situation, ces situations ne sont pas nouvelles et il n'est pas le seul dans ce cas. Cette volonté politique tend à se développer donc depuis de nombreuses années dans notre pays. On se rappelle le discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins en 2018, déclarant vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Ce discours était pour le moins clair. Les visites au Vatican, tant du chef de l'État, de ses ministres ou des élus locaux, se sont accélérées. L'ambassade de France auprès du Saint-Siège ressemble beaucoup plus à une officine de l'Église qu'à un territoire de la République laïque. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter ce site, je vous assure, ça vaut le déplacement. Emmanuel Macron interroge, prend conseil à tour de bras auprès des religieux. Il est même allé jusqu'à rencontrer le pape au sujet d'une loi si importante pour tous, la future loi sur le droit de choisir sa fin de vie. Et tout le monde sait très bien quelle est la position de l'Église catholique à ce sujet. La bienveillance de l'État vis-à-vis de Mgr de Boulogne-Beaufort à l'égard de sa déclaration sur le secret de la confession qui serait supérieure aux lois de la République après la diffusion du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église est un autre de ces exemples. Cela lui a valu une simple remontrance du ministre de l'Intérieur et quelques mois plus tard, la Légion d'honneur pour le courage qu'il aurait montré dans cette affaire. Les exemples sont nombreux de tentatives de réintroduire des signes religieux dans les mairies. Tout le monde a entendu parler de la question des crèches religieuses au moment de Noël, installées par des maires qui considèrent que la question ne poserait pas de problème et que ces crèches religieuses ne seraient pas des signes religieux. Ou alors, encore, de réinvestir le domaine public par l'installation de croix ou de statues religieuses. Pour rappel, au XIXe siècle, quand l'Église catholique a essayé de réinvestir la France, puisqu'elle avait perdu beaucoup de ses ouailles, elle a organisé des missions partout en France et elle a installé partout en France des croix de mission. De même, excusez-moi, on peut se rappeler de la présence escalité d'élus à l'occasion de cérémonies religieuses. Celles-ci sont devenues légion. À la messe ou à toutes sortes de cérémonies où normalement les élus de la République n'ont pas à aller. En tous les cas, escalité. Près de nous, pour ne citer que cela, la présence de représentants du maire à Marseille à la messe des échevins pour renouveler un vœu d'allégeance à l'Église catholique fait il y a 300 ans par des élus de l'époque est plutôt très significative. J'ajoute que là, il n'y a pas de tri à faire dans les élus. Il y a le maire, mais il y a aussi les représentants de la région, du département et même le préfet. En fait, ce qui se passe, c'est un travail de fond qui s'organise contre la loi de séparation des cultes et de l'État. La conjonction d'une volonté politique et d'une volonté religieuse. Un dernier exemple qui nous semble assez préoccupant. En 2022, l'Église catholique a organisé à Florence une rencontre des évêques et des maires de la Méditerranée. Vous me direz, je pars bien loin. Ben non, vous allez voir. Ont participé à ces rencontres deux maires français, escalités, dont M. Payan, maire de Marseille. Alors, dans ces rencontres, n'étaient avec le religieux que le nom, en fait. Dans ces rencontres, on a parlé politique. Et à l'issue de ces rencontres, les évêques et les maires ont signé une charte, qui se nomme Charte de Florence, qui appelle ni plus ni moins les États, les élus, à établir leur politique sur un certain nombre de points, notamment l'éducation, avec les religions. Monsieur Payan, contre la loi de séparation des cultes de l'État, a signé ce document qui n'est rien moins qu'une mise à mort de la loi de séparation. Ce document, si vous voulez le voir, est visible sur le site de la mairie. Prochainement, il va y avoir à Marseille les rencontres de la Méditerranée. Elles vont se tenir en septembre à Marseille et sont annoncées comme le prolongement des rencontres de Florence. Donc le prolongement de ces rencontres qui ont amené, qui ont permis, si on peut dire, l'adoption de cette charte invitant les États à participer avec les religieux à l'élaboration de leur politique. Reste-t-elle cantonnée à de strictes réunions entre religieux ou verront-elles la participation d'élus de la République? Là, on le verra à l'usage. Le pape va venir, à l'issue de ses travaux, clôturer justement ses travaux, et a dit qu'il faisait un voyage religieux. Pourquoi pas? Les catholiques peuvent bien recevoir leur chef religieux, mais c'est à eux de prendre tout cela en charge. Cependant, au vu de l'invitation faite au pape à plusieurs reprises par Emmanuel Macron de venir en France, au vu de l'implication de la mairie, des pouvoirs publics dans l'organisation de ces rencontres, et pour la tenue de la messe, au vu des déclarations assez peu neutres de M. Payan, déclarant « c'est un honneur pour notre ville d'accueillir le pape pour les rencontres méditerranéennes », nous pouvons être inquiets quant au risque de confusion des genres. De même qu'il y a eu confusion des genres avec ces sept maires du secteur d'Aubagne. La loi de 1905 exige qu'aucun fonds public ne soit affecté à ces cérémonies et à ces déplacements. Qu'aucun élu ès-qualité, y compris les maires dans la région d'Aubagne, ne participe aux rencontres avec les évêques ni à la messe au stade Vélodrome, y compris le président de la République. La vigilance et la mobilisation des défenseurs de la loi 1905 est pour nous essentielle pour préserver la laïcité dans notre pays. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que soutenir l'initiative que vous avez prise d'interpeller les sept maires du pays d'Aubagne et d'en informer les citoyens.
Ben, merci Claudette. Nous allons encore vous mettre un petit temps de pause. Alors, la chanson suivante, c'est « La légende de la nonne » de Brassens. Je ne sais pas si on les connaît, mais beaucoup ont entendu parler de cette chanson. Voilà.
Venez-vous dont l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'allonge ou sans tasse, les collines et les alliés. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade, à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse, le soir de hardi cavalier. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa.
Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu. Qu'afin de préserver du vice, les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Voilà, avant de continuer, je tiens d'abord à rappeler que ces interventions que l'on vient d'entendre, il est évident que sur le sujet de ces maires, il est entendu que nous réinviterons l'association, hein, cette fameuse association ACVHE, puisqu'on prend le raccourci, ça fait rigoler nos camarades, parce que bien entendu, c'est un sujet qui nous concerne directement et on vous tiendra informé par tous les moyens que l'on pourra. Non seulement on vous tiendra informé, mais bien entendu, la Libre Pensée continuera à soutenir cette action avec tous les moyens qu'elle peut avoir. Voilà. Alors, avant de continuer, je tiens à rappeler que la libre pensée, la libre pensée, elle se réclame de la raison et de la science. Hein. Elle n'est ni un parti, elle est indépendante de tous les partis, elle n'est pas une église, elle n'est ni un syndicat et indépendante des syndicats. Je vous dis ça en ce moment parce que, pourquoi ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous traversons une période difficile, hein, concernant notre jeunesse. Alors, nous avons, vous savez que l'association, que la Libre Pensée intervient avec beaucoup d'associations, beaucoup d'autres associations, comme par exemple la Ligue des droits de l'homme, le droit au logement, tout un tas de. Je ne vous citerai pas parce qu'il y a un tas d'associations, je vous en reparlerai après ce communiqué. Nous avons donc un communiqué en relation, bien entendu, avec ce qui vient de se passer et ce qui se passe actuellement. Voilà, donc je cite ce communiqué commun, je vous dirai après. Notre pays est en deuil et en colère. Notre pays est en deuil et en colère. Le meurtre de Naël, tué par un policier à bout portant à Nanterre, a mis à nu les effets de décennies de politiques publiques discriminatoires et sécuritaires, ciblant notamment les quartiers populaires et la jeunesse qui y grandit, et particulièrement les personnes racisées et précarisées. L'escalade des violences est une impasse et doit cesser. La conception essentielle répressive de la police et l'évolution législative de 2017 sur l'usage des armes de service aggravent ce que la population vit et subit, que ce soit en termes de discrimination et de pratiques racistes. Les tensions entre population et police viennent de loin et s'inscrivent dans une histoire marquée d'injustice, de préjugés, de violence, de discrimination, de sexisme et d'un racisme systémique qui traverse l'ensemble de la société et qui n'est toujours pas éradiqué. Les habitantes des quartiers concernés, et notamment les femmes, pallient bien souvent seules les carences en termes de services publics. C'est bien la régression de ceux-ci, l'école, le lieu de partage et de culture, sportif, la poste, les administrations, etc., et le recul du soutien de l'État au tissu associatif qui ont largement contribué à marginaliser ces quartiers et des territoires entiers, bien au-delà, particulièrement dans les Outre-mer. L'abandon de ces populations de quartiers est aggravé par le contexte économique d'appauvrissement, d'inflation, de hausse des loyers, des prix de l'énergie et la réforme de l'assurance chômage. Les inégalités sociales touchent particulièrement les enfants et les mères isolées. C'est ce que montrent les révoltes qui ont secoué les quartiers populaires depuis quelques jours en réaction à la tragédie de Nanterre. En plus de décennies de dérives d'une politique de maintien de l'ordre, de lois sécuritaires, loi sécurité globale, loi séparatisme, et de mesures d'exception, nous assistons depuis quelques jours à des pressions du gouvernement pour mettre en place une justice expéditive. Le prononcé des mises de détention préventives systématiques avec des peines de plus en plus lourdes n'est pas acceptable. L'urgence n'est pas celle de la répression qui ne fera qu'en renforcer l'extrême droite et fera reculer, une fois de plus, les droits et libertés. L'apaisement durable n'est possible que si le gouvernement prend les mesures nécessaires pour répondre à l'urgence de la situation et aux exigences des populations concernées. L'ONU a critiqué à plusieurs reprises les politiques sécuritaires et les problèmes institutionnels de racisme en France, en particulier dans les forces de l'ordre. Ce sont les discriminations qui sont un poison toxique qui décrédibilise l'idée même d'égalité et sème le désespoir. L'extrême droite en fait son lit pour diviser toujours davantage la société. Nous dénonçons l'appel à la guerre civile contre les quartiers populaires et la qualification des personnes qui en sont ici de nuisibles par des syndicats de policiers. Nous condamnons la constitution d'une cagnotte de soutien aux policiers qui a tué Naël à l'initiative d'un membre de l'extrême droite et l'absence de toute action de gouvernement mettant ainsi de l'huile sur le feu. Tout est à repenser et construire. Il faut partir de bases nouvelles, créer des espaces de discussion larges et tirer les leçons des erreurs des politiques publiques depuis des décennies, en respectant les histoires, parcours, cultures et singularités dont se nourrit notre aspiration collective à l'égalité. Il est plus que temps d'écouter et de prendre en compte les demandes des habitants des quartiers populaires et en particulier sa jeunesse. La situation nécessite que le gouvernement prenne ses responsabilités et apporte des réponses immédiates pour sortir de l'affrontement. Abrogation de la loi 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement. Le remplacement de l'IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique. La création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l'autorité administrative, présidée par le défenseur des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. Rien ne peut cependant se faire sans un autre partage des richesses, sans lutter contre les inégalités sociales. Rien ne peut se faire sans la lutte contre la pauvreté et la précarité, aggravée par les dérèglements climatiques, la hausse des loyers et des charges, et sans le renforcement des services publics et de l'éducation populaire. C'est à ces chantiers que le gouvernement devrait s'attaquer au lieu de mener des actions publiques répressives qui font le lit de l'extrême droite. Nos organisations syndicales, associations, collectifs, comités et partis politiques sont mobilisées pour le maintien des libertés publiques et individuelles. Dans l'immédiat, nous appelons à rejoindre tous les rassemblements et marches autour de ces revendications partout dans le pays à partir du mercredi 5 juillet, à l'exemple de la marche organisée par le comité Vérité et Justice pour Adama le 8 juillet à Beaumont-sur-Oise et de celle de la Coordination nationale contre les violences policières du 15 juillet. Nous appelons à des marches citoyennes le samedi 8 juillet dans toute la France et les territoires ultramarins. Nous construirons ensemble les suites de ces mobilisations. Alors, voilà le communiqué dans son intégralité. Alors, je vous donne quand même quelques signataires parce qu'il y a une liste impressionnante de signataires dans les syndicats, la CGT, la CNT, Solidarité Ouvrière, Fédération Étudiante, la FSU, Solidaire Étudiant, l'UNEF, l'Union Syndicale Étudiante. Il y a des associations également comme Amnesty International, les Amis de la Terre, ATTAC, bien entendu, la Libre Pensée, la Fédération Nationale des Maisons des Potes. Il y en a plein en définitive. Donc, la LDH, bien entendu. Et le planning familial, SOS Racisme, et dans des collectifs, il y a tout un tas de collectifs également, Alliance Conversant. Tout ce communiqué, de toute façon, vous le trouverez également sur le site de la Libre Pensée. Voilà concernant ce communiqué. Donc, je vous le rappelle quand même, ce que j'ai dit tout à fait en début de communiqué, je le rappelle que la Libre Pensée ne se réclame d'aucun parti et ni aucun syndicat. Voilà. Maintenant, on va vous mettre encore une petite pause pour à absorber un peu ce que je viens de dire. C'est une chanson de Pierre Perret qui est Lydie.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Voilà. Alors, bien entendu, malheureusement pour vous, je reprends l'antenne. Je vais continuer par une petite, je dirais, on appellerait ça une petite page de publicité. Quoi. On va terminer un peu là-dessus, enfin pas tout à fait. Mais on va essayer de faire notre maximum. Alors, vous savez que la libre pensée, on connaît la libre pensée parce qu'on intervient sur les ondes, on intervient un peu par Internet. Mais nous avons également toute une quantité de littérature que nous diffusons, bien entendu. Parmi cette littérature, nous avons un mensuel qui s'appelle « La raison ». Alors, bien entendu, inutile de vous dire que tout ce que je vais vous dire comme mensuel ou comme littérature, bien entendu, nous vous conseillons fortement de les lire et de les acheter. Voilà. Donc, dans notre journal La Raison, qui est paru depuis une semaine à peu près, un numéro du mois de juillet, août, celui-là, exceptionnellement, est sur deux mois, puisque vous l'avez bien compris que même les libres penseurs prennent des congés, prennent des vacances. Donc, théoriquement, on a un peu, quoi, pas condensé les écrits, parce qu'il y en aura toujours autant, mais ça se fera sur les deux mois. Nous aurons le prochain, sera au mois de septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu dans ce numéro de La Raison ? Alors, bien entendu, ce que j'ai retenu déjà, par exemple, c'est que c'est le centenaire. Il y a un centenaire qui va se célébrer le 20 juillet. Alors, ce centenaire, en définitive, ça ne va peut-être pas beaucoup vous parler. Hein, je vais vous dire, c'est le centenaire de José Doroteo Arango Arumbula. Voilà, vous allez me dire, c'est un bon nom, ce truc-là. C'est un nom étrange. Alors, il se trouve que vous le connaîtrez beaucoup mieux si je vous dis qu'il était connu sous le nom de Pancho Villa. Voilà. Donc, il y a un article là-dessus qui est intéressant à lire. Et dans cette brochure. Ensuite, il y a un autre article sur les maquis antifascistes allemands en France. Hein. C'est le dossier. On a l'habitude de faire un dossier dans ces revues, que ce soit celle de la raison ou de l'impertinent. Alors, c'est quoi ce maquis antifasciste ? Sur la route de la Corniche des Cévennes, on découvre près de Saint-Romain-de-Tourcq plusieurs panneaux consacrés aux maquis des années 1943-1945. Comment ne pas être étonné en lisant le nom des maquisards, 31 Allemands, 19 Français, 6 Russes et plusieurs Espagnols. D'où la dénomination courante qui est employée, un maquis d'antifascistes allemands en Cévennes, point d'interrogation. Alors, bien sûr, je vous appelle à le lire, cet article, hein, je ne vais pas vous le lire parce que je ferai concurrence à notre ami de la raison. Ensuite, il y a un communiqué de presse, hein, comme on a une tribune qui s'appelle « Droit et liberté individuelle ». Ce communiqué de presse concerne la fin de vie, pour le droit d'exercer sa liberté de conscience jusqu'au bout. Hein, c'est la leçon d'Épicure. C'est, vous le savez, le choix de sa fin de vie est un combat qui est mené par la libre pensée depuis très longtemps, que nous continuerons à mener d'ailleurs, hein, jusqu'au moment où on arrivera peut-être à obtenir ce que l'on veut. Mais je le rappelle, c'est un combat important de la libre pensée. Ensuite, qu'y a-t-il ? Ben, il y a un autre dossier, et celui-là, bien entendu, il est quand même important, puisque c'est une déclaration solennelle. La libre pensée s'adresse au mouvement laïque, démocratique, syndical et humaniste. Après la Ligue des droits de l'homme menacée par Darmanin, la Fédération nationale de la libre pensée est en butte aux attaques et agressions de l'extrême droite, des ultra-catholiques, de la réaction. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'une religion que l'on met en avant pour son extrémisme, je dirais. Donc, vous avez très bien reconnu ce que je veux dire. Mais nous, la libre pensée, en définitive, nous n'avons pas affaire à eux. Nous avons affaire à ces associations d'extrême droite qui sont d'extrême catholique, je dirais. Et c'est celles-là qui, en définitive, viennent à chaque fois taguer la vitrine du siège de la libre pensée, puisque dans le siège de la libre pensée, nous avons une librairie avec une vitrine, et systématiquement, ces gens-là viennent taguer notre vitrine, ou alors au moment de Noël, puisque nous combattons contre les crèches, venir faire une manifestation, c'est tout juste, ils ne viennent pas faire une crèche vivante devant notre vitrine, ce qui peut faire rigoler, mais pas toujours. Alors, bien entendu, cette déclaration solennelle, on a appelé également beaucoup d'associations à venir soutenir, à apporter son soutien. Il y en a beaucoup, la LDH, beaucoup de syndicats, et beaucoup de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui de ces associations, syndicats ou partis politiques viennent systématiquement nous soutenir. Et voilà un peu ce que vous lirez, je dirais, dans la première brochure que je vous présente, hein, que je vous ai présentée, qui s'appelle, je vous le rappelle, La Raison, à un prix honorable de 3,50 €. Voilà. Ensuite, nous avons toujours dans l'esprit d'association d'éducation populaire, hein, puisque on se reconnaît là-dedans, nous avons une autre brochure qui paraît en définitive 4 fois par an, c'est-à-dire tous les 3 mois. Cette brochure s'appelle « L'idée libre ». Alors, cette brochure « L'idée libre », elle a pour habitude de traiter à chaque fois un dossier spécifique. Hein, un dossier spécifique sur un thème défini. Par exemple, on en a eu beaucoup sur le canal, la laïcité au Canada, sur d'autres, plein de beaucoup de thèmes concernant la laïcité un peu partout dans le monde. Mais le sujet, par exemple, de cette brochure, qui est le dossier Italie 1943. Alors nous avons quand même dans ces brochures, brochures ou petits livres, hein, je ne sais pas comment on peut appeler, hein, c'est une petite brochure pas loin d'une centaine de pages. C'est petit, voilà, ma copine, ma camarade me dit, me glisse dans l'oreille, fascicule. Voilà, donc c'est un fascicule. Et bien sûr, nous avons des gens que beaucoup connaissent. Hein, en règle générale, d'ailleurs, celui qui intervient beaucoup là-dedans, c'est Jean-Marc Sciabba, par exemple, qui lui traite la révolution italienne commence. En 1943, la révolution italienne commence. Ensuite, nous avons un autre, par exemple, qui est Mario Montello, qui parle de Mussolini, rébellion et fascisme. Alors, quand nous avons un thème comme ça, un thème général, bien entendu, nous traitons les différentes facettes de ce thème. Comme par exemple la lutte pour les terres et la lutte de classe, ou de la résistance à la Constitution républicaine, hein, ou des personnages, hein, ou alors même des films, 1943 au cinéma. Voilà, ce qui est toujours intéressant. C'est des brochures qui sont très intéressantes à lire. Hein. Bien entendu, vous les trouverez toujours sur le site de la Libre Pensée. Il n'y a pas de problème. Si vous connaissez des libres penseurs dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'on est dans les Bouches-du-Rhône, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter. On est sur le site internet et on répondra à vos questions. Alors, en plus, dans l'idée libre, bien entendu, comme on ne peut pas, pour des questions juridiques ou de presse, tout au moins, on ne peut pas avoir qu'un seul thème. Donc, on traite toujours à côté un autre thème. Donc, là, en l'occurrence, sur ce dernier numéro, ce sont les hommes du Vatican, par Dominique Gousseau. Voilà ce que je pourrais dire sur l'idée libre. Alors, ensuite, de l'idée libre... Je vais vous parler d'un édito, quand même d'un journal. Alors ma camarade va pas me reprendre si je dis un journal. C'est le journal de la Libre Pensée, des Libres Penseurs des Bouches-du-Rhône, je dirais. Donc Claudette, justement, qui participe ici, est la responsable, hein, qui fait un énorme travail là-dessus. C'est pour ça que vous avez entendu que tout à l'heure, sa voix était un peu enrouée, parce qu'elle travaille énormément, puisque la nouvelle brochure de notre journal L'Impertinent, je pense, devrait sortir le week-end prochain ou après le week-end prochain. Je la vois qui hoche la tête. Donc, c'est que je ne me suis pas trop trompé. Ce qui fait que ben, dans cet impertinent, vous trouverez, bien sûr... Alors, contrairement à beaucoup de journaux que l'on peut dire locaux, nous ne reprenons pas en général les thèmes, je dirais, les thèmes nationaux. Hein, nous essayons de faire du local, comme on le dit. Alors... Par exemple, on va bien sûr rappeler ce qui s'est passé dans les interventions de la Libre Pensée. Par exemple, on va retrouver dans ce prochain numéro un hommage sur Esquiros, hein, sur qu'est-ce qu'on a eu par les participations à des rassemblements, comme on a eu des rassemblements pour la Palestine à l'occasion de l'anniversaire de Nakba. Nous avons également un compte-rendu de la conférence de Clovis Hugues, parce qu'il se trouve qu'il y a quelque temps, il y a à peu près un mois et demi, nous avons réalisé une conférence sur Clovis Hugues. Et nous avons réalisé, d'ailleurs, à ce titre, nous avons réalisé il y a deux jours, je ne me trompe pas, mais c'était jeudi dernier, tout au moins, une conférence organisée par notre ami Jean-Marc Siapa à propos de Gracchus Babeuf, qui était très intéressante. Donc, quand on fait des conférences, je vous appelle à venir les voir. C'est toujours intéressant. On apprend toujours quelque chose. Alors, bien entendu, on trouvera dans cette brochure les comptes rendus des groupes, hein, puisque je vous rappelle que la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône est composée de 6 groupes, hein, un à Arles, un à Aix, un dans les pourtours de l'étang, c'est-à-dire en définitive Martigues, Port-de-Boux et Istres, jusqu'à là-bas. Il y en a un à Vitrolles et deux à Marseille. Voilà. Alors voilà ce qui concerne dans cette revue qui s'appelle, donc ce journal qui s'appelle Notre Impertinent, toujours pareil, c'est un journal qui se fait par abonnement papier ou abonnement numérique. Alors concernant toutes ces revues, je dirais, vous les trouverez sur un site internet que je trouve très bien. D'abord, ma camarade sourit parce que je suis le créateur de ce site. Mais vous pourrez donc faire ces abonnements, connaître un peu plus sur la Libre Pensée et connaître un peu ce qu'est la Libre Pensée. Vous avez eu un aperçu en recevant l'association...
Un fait qu'ils arrachent à la terre.
C'est mon camarade qui fait des blagues à côté. Il ne m'a pas arraché à la terre, mais il va peut-être m'arracher à la discussion. Je ne sais pas. Mais enfin, voilà, sur ce site, donc, vous aurez tous les enseignements utiles pour, si ça vous intéresse, que la Libre Pensée, vous en saurez un peu plus. Et on ne sait jamais, vous pourrez peut-être nous rejoindre. Alors maintenant, je ne peux pas terminer cette phase pub sans vous parler que quand même la prochaine action que nous aurons au niveau de la Libre Pensée, il se trouve que vous n'ignorez pas, je pense, hein, même si vous n'êtes pas pratiquant catholique, que nous allons recevoir le pape. Hein, le pape, au mois de septembre, va être présent sur Marseille. et il sera au Vélodrome, pas pour faire un match, mais pour faire une messe. Donc, bien entendu, la Libre Pensée organisera la veille, c'est-à-dire le 22 septembre, une conférence, tout au moins une réunion publique à sujet de la venue du pape. Alors pourquoi ? Je ne vais pas vous redire le pourquoi le pape, on est pour ou contre. Et je vais vous dire tout simplement que pour nous, le pape, il peut se déplacer là où il veut, quand il veut, comme il veut, mais à ses frais, pas aux frais des fonds publics. Voilà, c'est ce qu'on veut retenir, surtout dans ce truc-là. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce problème, cette venue du pape, je vous engage à écouter le podcast que nous avons réalisé là, il y a un mois, hein, début juin, sur pourquoi le pape, pourquoi le Vatican n'est pas un État, et le sujet sur le sujet de la venue du pape à Marseille. Voilà. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus. J'ai assez tenu l'antenne. Je pense qu'il est temps que je me débarrasse le plancher, je dirais, pour ainsi dire. Et je vous donne rendez-vous non pas le mois prochain, puisque, je vous l'ai dit, même les libre-penseurs prennent du repos. Mais nous nous retrouverons, comme on a décidé en début d'année, le premier mercredi de chaque mois, donc le premier mercredi de septembre. Avant de terminer également, je tiens à remercier quand même Radio Galère et surtout notre camarade qui est à la régie, Daniel, sans lequel notre émission ne pourrait pas se réaliser. Voilà. Je vous donne donc un rendez-vous pour le premier dimanche, excusez-moi, je suis perturbé, j'étais parti sur la messe c'est le dimanche, non, c'est le mercredi. Voilà, donc le premier mercredi de septembre. Merci.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous vous en serez autant des cerises et vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Émission du jour, ce mercredi 24 mai 2023. Aujourd'hui, on va parler...